Le tant attendu festival Mythos a débuté vendredi sous un traditionnel soleil qui a duré tout le week-end. Beaucoup de moments forts ont déjà eu lieu, il y en avait une fois de plus pour tous les goûts. Chaque jour de la semaine, de notre côté, on vous proposera le journal de Mythos pour entendre les artistes que vous avez découverts, mais cette fois à nos micros.
Et au programme du journal d'aujourd'hui, Romain, on a quoi ?
Et ben on a choisi de discuter avec Sarah Zinger, Bertrand Belin et Dénès Prigent, trois artistes pour trois générations différentes de public.
Et on vous garde aussi d'autres moments forts pour demain.
Et oui, Flesh Love et Canine, parce que Juliette a tellement apprécié ces rencontres qu'elle peaufine encore le montage afin que vous viviez ces moments aussi intensément qu'elle les a vécus.
Et on commence par quoi ?
Par un extrait de Radio Elvis qui passe ce soir. Le trio pop-rock Radio Elvis partagera le plateau avec Lou Doyon au Cabaret Botanique ce soir à partir de 21h. Il reste encore des places, alors n'hésitez pas. Nous, on repart au cœur de ce week-end et j'ai bien envie de commencer avec Dénès Prigent, chanteur breton qui, je cite, « parle chant breton de multiples étoffes ». Bon, ça c'est le télégramme qu'il dit, il défend surtout une culture affirmée mais ouverte.
Tout d'abord, la musique bretonne, son essence, son origine, c'est le chant a cappella. Voilà, il est né comme ça, il y a eu au début la voix parlée. Et ensuite, il y a eu la voix, l'histoire, on l'a mis en musique. C'est ce qui fait qu'en fonction d'accent tonique, cette musique est devenue originale, est devenue une musique unique au monde, et c'est devenu la musique bretonne. Et c'est voilà pour toutes les musiques. C'est pour ça que toutes les musiques sont différentes, parce qu'elles viennent de la langue. À partir du moment où on pose une langue sur un texte, déjà en parlant, déjà on est déjà dans la musicalité. Et dès qu'on met une musique sur ce chant, sur ce texte, on est contraint d'utiliser certaines notes pour respecter l'accent tonique de cette langue. C'est ce qui fait la spécificité de toutes les musiques qu'il y a au monde. Du maloya, du gospel, toutes ces musiques viennent de la langue à l'origine. Voilà, c'est la langue qui définit la mélodie. Voilà, au départ. Et donc en Bretagne, et très souvent dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est le chant a cappella au début. Voilà, une histoire, un événement, on le raconte, on le chante sans instrument. Et ensuite, pour captiver plus l'auditeur, l'auditoire, on a rajouté un instrument. Voilà, et puis donc l'instrument vient sobrement accompagner le chant en second plan. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs instruments. Et puis, voilà, et puis au fur et à mesure, il fallait les trouver aussi, ces instruments. Alors ces instruments, c'est très souvent par les voyages qu'on les ramenait, notamment en Bretagne. Donc en Bretagne, un des instruments emblématiques, c'est la bombarde. Mais la bombarde n'est pas née comme ça dans un champ de fleurs, comme ça, du bout du jour. Non, elle est venue par les croisades, donc en Bretagne. Et donc c'était un instrument au départ oriental qu'on a adapté à cette mélodie, aux mélodies bretonnes. Et c'est devenu par excellence un instrument breton. Pareil pour la guitare. La guitare est un instrument aujourd'hui qu'on entend dans toutes les formations de Fesnos. Mais elle est venue de l'Espagne et on l'a adaptée. On l'a adaptée à la musique bretonne et est devenue un instrument breton à part entière. De même pour l'accordéon, par exemple. L'accordéon, lui, vient du musette. Il est tout récent dans la tradition bretonne. Et lui, au début, on dit « Oh, scandale, l'accordéon !» Mais à chaque fois, il y avait des levées de boucliers, évidemment. Mais scandale, l'accordéon. Mais l'accordéon, il s'est adapté à cette musique, notamment à la musique à danser. On a trouvé que c'était vraiment bien pour adapter. Donc c'est devenu un instrument breton à part entière. C'est d'autant mieux l'accordéon puisqu'il a remplacé le couple sonneur-bombarde, là où il fallait payer deux personnes à l'époque. On n'avait plus qu'une personne à payer. Donc ça c'était aussi efficace. Donc l'instrument n'est qu'un outil en fait. C'est un morceau de bois. C'est pas parce qu'on fait des machines électroniques qu'on fait de la techno ou qu'on fait de la musique arménienne. Voilà, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est la sensibilité qu'il y a derrière. C'est ça qui fait que l'instrument, on se l'approprie, on l'apprivoise et on l'adapte à la musique du pays d'où on est originaire. C'est pour ça là, par exemple, Cyril Bono, quand il joue du doudouk, les gens diront « Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on devrait jouer du doudouk, si. » Lui, il a appris déjà avec des maîtres, Mais ensuite, il n'est pas resté à faire jouer comme ses maîtres. C'est un joueur de bombarde à l'origine. Il joue la bombarde, son souffle, quand il joue de la bombarde, il souffle dans le doudouk comme il souffle dans sa bombarde. C'est pour ça qu'il a un souffle, il envoie dedans. Quoi. Le doudouk devient, du coup, il a un autre son. Et il devient breton. Et ça devient un instrument breton. Et c'est pareil pour les machines. Les machines aussi, une façon, ce n'est qu'un outil. C'est la façon dont on les utilise qui deviennent bretons ou pas. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile de dire est-ce qu'on est dans la house, dans l'ambiance, dans le trip-hop, dans le hip-hop. Non, Arnaud a très bien compris que ces instruments ils viennent là pour servir le chant. Le chant qui est le moteur toujours, c'est l'axe de la culture, de la culture musicale, l'axe de la musique en Bretagne. Et la mélodie aussi, c'est lui qui l'a défini. Et puis voilà, donc il suit le chant. Donc tout ça, du coup, ben, ça s'imbrique de façon naturelle et n'y a pas de cet effet collage qu'il pourrait avoir. Voilà. Donc les machines, les scratchs et tout ça deviennent, même le TB-303 que j'adore, qui est un instrument, c'est un instrument Roland, c'est une petite boîte comme ça, on l'appelle la petite boîte d'argent, ça fait très breton d'ailleurs, à Vostigaran. Et du temps où je travaillais avec Arnaud Brébottini, on l'avait, en 97, on l'avait beaucoup utilisé. C'est vraiment un instrument qui peut atteindre des sonorités aiguës comme le biniou, qui est l'instrument le plus aigu au monde, avec le c'est les acousticiens qui le disent, avec les certaines notes du clavecin. Donc le TB-303, lui, c'est pareil aussi, dans cette note très aiguë, il peut rappeler le biniou-cos, quoi. Il a un côté un côté très très violent, quoi, pour les tympans. Moi j'aime bien ça, quoi. C'est un instrument qui permet de qu'on entend au-delà du ressac et au-delà du vent qui souffle. Voilà, c'est comme la bombarde, la corne, le biniou-cos, voilà, la grande cornemuse écossaise qui est devenue aussi un instrument breton. Voilà. Au fur et à mesure, et puis moi, c'est des instruments de ma génération, donc les machines, les cratchs, ça, c'est des instruments de ma génération. Il y a une musique qui est très ancienne, qui est la guerre, qui date du 5e siècle, le canadiscan est plus récent, mais voilà, il faut trouver des nouvelles sonorités, voilà, et chaque génération apporte ses sonorités.
Dénès Prigent aime l'ouverture, l'innovation, et il n'a pas froid aux yeux, et c'est ce qui nous a plu samedi dans son concert. Un autre personnage qu'on a rencontré, oui, un personnage on peut le dire, puisque c'est le nom de son dernier album, Persona, c'est Bertrand Belin, chanteur pop français dans la lignée de Dominique A et inspiré par des artistes comme Bachung, ça ressemble à ça.
Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes, sur le cul. Des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient.
Bertrand Belin était ravi d'être là, comme il nous l'a confié d'ailleurs à nos micros.
Un plaisir de venir à Rennes, de venir à l'Ouest en général, hein, mais c'est vrai que en particulier au Festival du Tabor, hein, parce que enfin, Festival de Mythos, quoi, parce qu'on a de bons souvenirs ici. C'est pas la première fois que j'y joue et on repart toujours avec l'esprit plein de souvenirs super. C'est un cadre magnifique, il y a du soleil, il y a plein de groupes à voir, il y a une boum pour les enfants cet après-midi. C'est classe.
C'est classe comme Bertrand Belin. Mais le point d'orgue de ce week-end, c'était bien entendu Sarah Zinger, qui fait de la musique grave cool et innovante et qui était bourrée d'énergie. On la retrouve tout de suite en tête-à-tête avec notre reporter Valentin.
Nous sommes au deuxième jour du festival Mythos en plein parc du Tabor et ce soir je suis en compagnie de Sarah Zinger, artiste émergente et éclectique de la scène électronique française. Tu commences à t'immerger dans la musique électronique à Dunkerque, ta ville natale si je ne me trompe pas. Puis c'est quand tu arrives à Marseille que tu commences à mixer et que tu rentres dans le vif du sujet. Pourquoi cet engouement pour la musique électronique et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Sarah Zinger ?
Effectivement, j'ai vécu à Dunkerque jusqu'à mon bac, donc 17-18 ans. Ensuite, j'ai déménagé à Lille et c'est là que j'ai fait mes premières sorties en boîte, dans des grosses boîtes de nuit à la frontière belge. Et ce qui m'a donné envie de mixer, c'était les DJ. de voir ce mec tout là-haut qui décidait de comment allait se passer la soirée. Mais au final, quand je m'en rappelle, même à l'époque des booms au collège, c'est moi qui mettais les CD dans le poste. J'ai toujours eu cette envie de décider de ce qu'on allait écouter. Donc voilà, c'est venu de là. Effectivement, j'ai acheté mes platines une fois arrivé à Marseille, donc vers 22-23 ans, quand j'ai travaillé, que j'avais les moyens de m'acheter des platines. C'est une envie que j'avais depuis plusieurs années, mais j'avais juste pas le budget.
Il faut savoir que tu n'es pas juste DJ, tu crées aussi ta musique. Comment s'est fait la transition de DJ à productrice et est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais en tête quand tu as commencé à mixer ou c'est venu naturellement petit à petit?
Absolument pas. Quand je me suis mise à mixer, j'avais un pote qui mixait déjà depuis longtemps, qui s'était arrêté de mixer pour se mettre à la production. Et quand je lui ai dit que je voulais acheter des platines, il m'a dit « Mais surtout pas en fait, mets-toi à composer direct, c'est beaucoup mieux ». Et dans ma tête, je dis « Mais non, mais moi je m'en fous, je veux pas composer, je veux juste être là en club et mixer ». Et il m'a dit « Un jour, tu penseras à moi ». Et effectivement, 6 ou 7 ans plus tard, je galérais à trouver des morceaux intéressants à mixer. Pour moi, personne ne composait des morceaux à mon goût. Et du coup, je me suis dit « Je vais apprendre à les faire moi-même ». On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Tes productions, tu les fais en live ou tu les mixes?
Non, c'est des morceaux que je fais en studio et je les mixe tel le morceau de quelqu'un d'autre, mais sauf que c'est le mien.
D'accord, et ça t'intéresserait peut-être par la suite de faire du live sur scène avec des machines?
Absolument pas. Enfin, je te dis ça aujourd'hui, mais peut-être que ça va changer encore. J'ai ma partie DJ set où je suis juste un DJ normal et j'ai aussi ma formule où là, ce qu'on appelle mon live, c'est là je joue que mes prods à moi où je rechante sur mes propres, donc je vire mes vocales sur mes prods et j'ai le micro et j'ai des chants en direct en fait. C'est ce que j'appelle mon live et je veux surtout pas passer aux machines parce que pour moi le fait de rester en DJ set, ça me permet d'avoir le temps de lever la tête et de sortir de mes platines pour aller chanter auprès des gens. Et je veux absolument pas être enfermée dans mes yeux rivés sur un ordinateur avec un live à Ableton ou même à synthé où je relèverai pas la tête, j'ai besoin de communiquer avec les gens. Donc je préfère garder cette liberté où je mets play et mon morceau part sans la voix et là je peux sortir des platines et faire le show.
On peut voir que tu as des approches plutôt différentes qu'un DJ habituel puisque tu te résous pas essentiellement à de la musique électronique, à de la techno. Tu incorpores pas mal de sonorités, tu chantes et puis même tu mixes des morceaux assez lents. On qualifie ta musique d'électropop, de dance, de new wave. Comment toi tu la définis?
J'ai un pote il n'y a pas longtemps qui m'a dit en écoutant mon EP qui sort dans 2 semaines, donc vous ne le connaissez pas encore, mais il y a Laurie dessus, mon morceau qui est sorti en octobre, et ma reprise de Pink Floyd. Et les autres morceaux sont très cohérents avec ces deux-là sur l'EP. Et la réflexion qu'il m'a fait, c'est « Ah, mais en fait, toi, tu fais de la new wave ». Et j'ai trouvé ça pas mal comme nom, ouais, de la new wave, avec un bon côté quand même électro derrière. Mais ouais, c'est un peu inclassable, donc c'est un peu compliqué et ça peut-être heurter quelques personnes qui vont m'attendre sur un EP techno, très axé club, en l'occurrence ça va pas être ça du tout. Donc c'est un peu un risque quand même que je prends, mais c'est juste la musique que j'ai envie de faire et elle est inclassable et c'est juste ma musique en fait.
Ok, donc new wave alors. Et lors de tes DJ sets du coup comme ce soir, est-ce que tu varies les styles, tu as une ligne directrice ou tu aimes jouer même des choses très différentes de ce que tu produis?
Ouais, il faut savoir que déjà je prépare jamais mes sets. Là si tu me dis qu'est-ce que tu vas jouer ce soir, j'ai aucune idée de ce que je vais jouer. Je dois avoir, je sais pas, 500-600 morceaux dans ma clé. Et je m'empêche de préparer quoi que ce soit parce que pour moi c'est vraiment un échange avec le public et j'ai besoin d'arriver une demi-heure avant et de capter l'ambiance déjà du DJ qui me précède. Je veux pas arriver et casser l'ambiance du tout au tout. Donc si la personne qui joue avant moi, c'est un DJ qui envoie de la grosse techno, bah, mon set sera du coup un peu plus musclé. Et si à l'inverse, c'est un DJ qui joue plus commercial, je vais commencer avec des morceaux un peu plus électro-rock pour après les amener dans mon univers. Mais voilà, c'est toujours un voyage que je veux faire en direct avec des gens, donc je prépare jamais rien avant. Et donc oui, ça peut partir dans plusieurs côtés différents de la musique, tout en gardant une base électro et quand même un côté rock ou disco quelque part.
Et enfin, dernière question, pourquoi Sarah Zinger?
Ok, comment tu sais que c'est pas mon vrai nom? Sarah, c'est mon deuxième prénom. Mon papa est algérien et il a 9 frères et sœurs. Et ma grand-mère algérienne, un jour, a dit « La prochaine fille qui naît dans la famille, elle s'appellera Sarah ». Ma mère est tombée enceinte, donc c'était tout tracé, je devais m'appeler Sarah. Sauf qu'ils ne se sont pas concertés avec ma tante qui était enceinte aussi. Et ma cousine est née genre 2 ou 3 mois avant moi. Du coup, c'est elle qui a récolté le nom Sarah. Et moi, ça s'est retrouvé avec un nom dans un livre chez Leclerc, livre des prénoms, première lettre A. Et mon vrai prénom commence par A et mon deuxième prénom c'est Sarah. J'aurais toujours préféré m'appeler Sarah du coup en référence à ma grand-mère. Et Isinger, c'était sur une planche de skateboard que j'avais trouvée dans un supermarché que quelqu'un avait oublié. Donc j'ai un peu volé au rayon mayonnaise. Et il y avait marqué Isinger derrière. C'était Zipzinger, la marque du skate. Et Sarah Isinger, ça collait. C'est juste devenu mon nom sur Facebook. En fait, je mixais même pas. Et quand j'ai commencé à mixer, on taguait mon Facebook et tout le monde a cru que c'était mon nom DJ, Sarah Isinger. Voilà.
Ok, super.
Un skate et une grand-mère, en effet, c'est super. Merci beaucoup, Valentin. C'était donc Sarah Isinger. Elle a de l'avenir et son dernier EP est très attendu. En voici un extrait. On donnera la parole à Canine et Flesh Love dans le journal de Mythos et d'Algrès également. Notre événement partenaire c'est Mythos, on y sera notamment vendredi et samedi en direct du Tabor.